Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le 245e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est la première semaine des vacances de la Toussaint et comme nous l'avions annoncé lors de notre émission précédente, elles sont synonymes d'un petit creux dans l'actualité musicale classique, ce qui est souvent le cas, il faut dire, à cette période de l'année. Cela étant, cette accalmie va être de courte durée, les programmations musicales repartant de plus belle dès le lundi 6 novembre. Cette accalmie est également relative, puisqu'il y a tout de même cette semaine un double concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, les jeudis 26 et vendredi 27 octobre, dirigé par le grand chef néerlandais Ton Koopman. Trois grandes œuvres sont au menu de ces soirées, la suite pour orchestre numéro 3 BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, le concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel et le très célèbre Requiem de Mozart. Pour en parler, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Gabriel Bourgoin, chef du chœur de l'Opéra National du Capitole, et le mandoliniste Julien Martineau. Tous deux sont bien sûr accompagnés de Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons tout de suite revenir avec Serge sur l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue également à tous les trois. Ce retour sur l'actualité musicale récente va être court, puisqu'un seul concert a eu lieu depuis notre émission précédente. C'était un concert de l'Orchestre National du Capitole, donné dans le cadre de son cycle Happy Hour à la Halle aux Grains samedi dernier. Ce concert avait pour particularité de mettre à l'honneur un instrument qui a rarement la vedette, le hautbois, et pour cela, deux œuvres assez rarement aussi mise à l'honneur, était au programme, Serge.
Oui, en effet. Signalons que ça va être cette année la caractéristique des concerts Happy Hour, puisque les deux autres concerts, il y en a un qui sera consacré au cuivre, l'autre aux percussions. Donc c'est vraiment une saison qui veut mettre en évidence des groupes d'instruments ou des instruments importants pour l'orchestre. Alors le hautbois, c'est un instrument très important. C'est tout de même lui qui donne le la au début de chaque concert et le la auquel se raccrochent, heureusement, tous les autres musiciens. Et puis c'est un instrument, rappelons-le, qui a une gamme de pouvoir expressif incroyable, puisqu'il peut être à la fois le canard de Pierre et le loup et puis le témoin des douleurs, des passions, des peines, dans les cantates de Bach notamment. Voilà, cet après-midi de samedi, cette fin d'après-midi, puisque les concerts ont lieu tous à 18h, et c'est une chance pour les familles, puisqu'il y avait effectivement beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants cet après-midi-là, dont ce concert a débuté à 18h par un concerto pour hautbois, évidemment, qui était donné avec, d'une part, le nouveau chef invité, c'était sa première invitation à Toulouse, chef néerlandais Anthony Hermes, et un soliste oboïste, donc maison en quelque sorte, puisqu'il s'agit de Bobby Cheng, qui, comme on le sait, est hautbois solo, l'un des deux hautbois solo de l'Orchestre National du Capitole. C'était donc la fête du hautbois ce soir-là. Alors, le concerto pour hautbois qu'ont donné tous ces musiciens, c'est un concerto que Mozart a écrit à 21 ans pour un collègue oboïste avec ses trois mouvements classiques, Allegro aperto, Andante et Rondo. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le rondo, le thème du rondo final, c'est en fait le thème de l'un des airs de l'enlèvement au sérail, l'air du personnage de Blondchen. Enlèvement au sérail qu'il a composé à peu près 5 ans après ce concerto. Donc, on a assisté à cette interprétation très vivifiante, avec un chef à la direction très animé, très souriant, qui sourit en permanence à tous ses musiciens, et un soliste vraiment chapeau de grande classe. Bobby Cheng est en même temps un grand virtuose et un musicien, un profond musicien. Alors je voudrais signaler quand même que les trois cadences, les trois mouvements de ce concerto, c'est lui-même qui les a aménagés en fonction des thèmes principaux, évidemment, comme ça se faisait à l'époque. Hein. C'était aux interprètes à improviser les cadences. Et bien là, il l'a fait, à part qu'il ne l'a pas improvisé, qu'il a dû bien les préparer.
Bien préparer son affaire.
Ah oui, oui, et c'était d'ailleurs éblouissant. Hein. Il a eu un succès fou, il a été acclamé. Bon, il est revenu, il n'y a pas eu de bis, parce qu'en général, il n'y a pas de bis dans ses concerts. Et vraiment, ça a été un grand plaisir que de l'entendre jouer avec cette perfection, ce concerto, qui est vraiment une musique du bonheur, hein, une musique heureuse. Donc, bravo à lui. Hein.
Comme on a rarement l'occasion d'entendre le concerto pour hautbois K314 de Mozart, je propose qu'on en réécoute un extrait, le fameux troisième mouvement Rondo Allegretto. Le troisième mouvement Rondo Allegretto du concerto pour hautbois K314 de Mozart, joué ici par le hautboïste français François Leleu. Alors une chose qu'il faut préciser après l'exécution de ce concerto, c'est que d'autres membres du pupitre de hautbois de l'Orchestre National du Capitole sont venus présenter leurs instruments, parce que la famille de hautbois, il y en a plusieurs évidemment, il n'y en a pas qu'un.
Ah oui, absolument. Et donc, j'ai eu la chance, puisque j'avais l'honneur de présenter ce concert, d'appeler Serge Krichevski, que l'on connaît bien à Radio Présence, qui est venu en apportant deux hautbois, d'une part un hautbois d'amour, et d'autre part le cor anglais. Le cor anglais qui n'est absolument pas un cor et qui n'est absolument pas anglais. Il est venu et il a même donné un exemple. Et dans cet exemple, il a joué le solo de cor anglais qui précède l'air du ténor de Carmen. Carrément. Donc, on a eu droit à cette sonorité sombre, belle, ronde du cor anglais, hein, avant l'écoute de la symphonie de Bizet, la symphonie en ut majeur, vraiment de jeunesse, puisque Bizet l'a composée en 1855. Il avait 17 ans, tout simplement. Et c'est presque la seule symphonie qu'il a composée, encore qu'il a composé une symphonie Roma, Souvenir de Rome exactement, sous-titré. Mais là, il s'agissait donc de cette symphonie en ut majeur. D'après un musicologue, Hervé Lacombe, c'est un exemple de fraîcheur, de grâce et de clarté. On est toujours dans le bonheur absolu lors
comme,
de ce
comme
concert.
Comme souvent chez Bizet, il faut dire.
Ah oui, absolument. Et donc, c'est une symphonie à la découpe classique, en quatre mouvements, et qui a une particularité, évidemment, et c'est pour ça qu'elle a été choisie, c'est que l'adagio, le deuxième mouvement, eh bien, au début même de cet adagio, il y a un solo de hautbois magnifique, splendide. Un solo qui est souvent qualifié d'orientalisant, d'ailleurs. Et cette fois, c'était l'autre hautbois solo de l'orchestre, Louis Séguin, qui était l'interprète de ce solo. Il a eu un triomphe lors de ce solo, d'ailleurs, qu'il a joué magnifiquement. Hein. Vraiment, un moment de bonheur absolu pour ces deux œuvres joyeuses, gaies et agréables à écouter. Une fin d'après-midi de samedi parfaite. Et vraiment, je crois qu'il a intéressé beaucoup les enfants. Et il y avait beaucoup d'enfants dans la salle.
Alors c'était d'autant plus intéressant que les œuvres en question n'avaient pas été jouées depuis longtemps au Capitole. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour la symphonie en ut majeure de Bizet. Elle a dû être jouée à l'époque de Michel Plasson, grand défenseur de la musique française. Donc elle a forcément été jouée, mais Michel Plasson, il a quitté l'orchestre il y a plus de 15 ans. Donc vous voyez, ça date.
7 ans. Et donc il faut préciser aussi que ce concert, et même augmenté d'ailleurs, a été donné d'une part à Bruguière et ensuite à Pibrac dimanche. Et là, en plus de ces deux œuvres, l'orchestre a joué le ballet pantomime Le Bœuf sur le Toit de Darius Milhaud. C'est vraiment un programme qui a couru là, qui a vraiment été...
Dans la métropole toulousaine.
Ah oui, absolument.
Et ce qui est une très bonne chose, il faut que l'orchestre du Capitole aille jouer aussi ailleurs qu'à la Halle au Grain.
Oui.
Alors comme on a rarement l'occasion d'écouter cette symphonie en ut majeur de Georges Bizet, on va écouter son premier mouvement, Allegro Vivo, dans une version du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink. Le premier mouvement Allegro Vivo de la symphonie en ut majeur de Georges Bizet dans une version du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink dans un autre registre. Nous voulions vous rappeler, vous signaler la parution récente du CD Daphnis et Alcimadur, enregistré par l'Orchestre des Passions de Montauban sous le label Ligia. Il s'agit d'une version de l'opéra Occitan en occitan de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville, enregistré en concert et dirigé par Jean-Marc Andrieux. Serge, vous l'avez écouté et vous allez pouvoir nous rappeler qui sont les protagonistes de cet enregistrement.
Alors, il faudrait rappeler tout de même qu'on doit cette résurrection, puisqu'il s'agit vraiment d'une résurrection, ça n'a probablement pas été joué depuis l'époque de sa création, de cet opéra occitan et qui a été donné à Versailles, donc, devant le roi.
Créé à Fontainebleau, précisément.
Oui, à Fontainebleau, exactement.
En 1754, devant la cour de Louis XV et Louis XV lui-même.
Et donc, ce sont les recréateurs eux-mêmes, l'Orchestre Les Passions et Jean-Marc Andrieux, qui ont décidé d'enregistrer cet opéra, évidemment pour la première fois, bien sûr. Et donc, il l'a enregistré avec non seulement son orchestre qui joue sur instruments d'époque, mais également avec le chœur Les Éléments, dirigé par Joël Subiette, qui collaborent très souvent d'ailleurs ensemble. Alors, la distribution de cet enregistrement est vraiment celle qui avait recréé, puisque ça a été donné trois fois
L'enregistrement a eu lieu pour le concert d'ouverture du Festival Passion Baroque 2022.
Oui,
Théâtre Olympe de Gouges de Montauban.
Et donc, il y a une belle distribution avec des chanteurs, mais vraiment rompus au style français de l'époque. Alors, le prélude de l'opéra est le seul qui soit chanté en français. Donc, c'est une sorte d'hommage à Clément Cisor. C'était la soprano Hélène Lecor qui chantait donc ce prologue magnifique. Et ensuite, nous avons eu donc le reste de l'opéra, intégralement en occitan, chanté par, dans le rôle de Daphnis, Nicolas Geslot, qui possède vraiment la tessiture exacte de haute contre à la française.
Voilà, François-Nicolas Geslot, effectivement, un des grands hautes contres que nous comptons actuellement en France,
spécialiste
de ce genre de rôle.
Un grand styliste avec un très beau timbre et un sens du théâtre qui passe même à l'enregistrement.
Absolument.
Donc vraiment très très bien. Sa compagne donc Alcimadur, c'était Élodie Fonard, avec une très belle voix de dessus, c'est comme ça que l'on qualifiait les sopranos à l'époque, et un abattage pétillant vraiment de...
Parfaite pour ce rôle.
Ah parfait. Et puis il y a un troisième rôle, c'est le frère d'Alcimadur, Jeannet, et dont la voix de taille cette fois, donc voix de ténor, était celle de Fabien Yon. Et donc, l'ensemble des chanteurs ont tout de même été aidés dans la prononciation de l'occitan par la spécialiste Muriel Batby-Castel, qui se trouve être celle qui est la voix du métro.
C'est la voix du métro pour l'annonce des stations en occitan.
En occitan. C'est vraiment un coffret réjouissant avec un très gros livret, avec beaucoup d'explications, un livret à la fois en français, en occitan ancien et en occitan réformé, donc on a vraiment trois fois le texte de cet opéra. C'est un bel ouvrage, ça peut faire l'objet d'un très beau cadeau.
C'est une bonne idée pour Noël.
Oui. Ah, oui.
Eh bien, voici un petit extrait de ce CD Daphnis et Alcimadur avec l'air Gazouillats Auseles, chanté par Alcimadur elle-même, c'est-à-dire Élodie Fonard, accompagnée par Les Passions et Le Cœur Les Éléments. L'air d'Alcimadur, Gazouillats Auseles, chanté par Élodie Fonard, accompagné par Les Passions de Montauban, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, extrait du CD Daphnis et Alcimadur, paru sous le label Ligia, que vous pouvez vous procurer sur le site web des Passions, www.les-passions.fr. Fin de cette première partie d'émission, rendez-vous dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie, avec Gabriel Bourgoin et Julien Martineau, nos deux invités d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie, L'agenda.
Retour à l'antenne avec Gabriel Bourgoin, chef du chœur de l'Opéra National du Capitole de Toulouse. Julien Martineau va nous rejoindre un peu plus tard dans le studio de Radio Présence. L'agenda musical cette semaine, c'est donc un seul événement sous la forme d'un double concert jeudi et vendredi prochain à 20h à la Halle aux Grains, donné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction du grand chef néerlandais Ton Koopman, ce qui constitue déjà une attraction en soi, mais le programme est également magnifique, avec la suite pour orchestre numéro 3 BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, le concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel et le célèbre Requiem de Mozart pour lequel va intervenir bien sûr le chœur de l'Opéra National du Capitole préparé par Gabriel Bourgoin qui va nous expliquer comment on prépare des choristes pour une telle œuvre. Mais avant, on va faire mieux connaissance avec vous si vous le permettez Gabriel Bourgoin parce que c'est la première fois que vous venez à Mélomanie et parce que vous avez pris la direction du chœur du Capitole il y a à peine plus d'un an. Alors tout de même, avant, il y avait eu une période d'intérim, si on peut dire, durant un an également.
Exactement. Suite au départ de mon prédécesseur, Alfonso Cayani, il y a eu une période d'indécision pour laquelle j'ai été sollicité par le directeur Christophe Gristi. Et donc pendant une saison, on s'était, au moins sur le début de saison, partagé le travail avec un ancien chef de chœur de la maison, Patrick-Marie Aubert. Donc ça a été l'occasion pour moi, en tant que jeune chef de chœur, d'apprivoiser ce genre de poste permanent, mais surtout de faire mes preuves.
Vous êtes un jeune chef, comme vous venez de le dire, vous avez 34 ans. Quel a été votre parcours avant d'entrer dans cette vénérable et prestigieuse maison qu'est le Capitole ?
Pour faire simple, j'ai choisi de faire un double parcours, parce que depuis toujours, j'ai été intéressé autant par la musique instrumentale que la musique vocale. Dans ma jeunesse, j'ai pratiqué plusieurs instruments, comme le violon, le piano et l'orgue. Et j'ai toujours chanté, d'abord dans les chœurs d'enfants, puis après la muse, j'ai travaillé ma voix pour apprivoiser cette voix de baryton léger. Et j'ai eu la chance de pouvoir aboutir dans un cursus de double master, un master en direction de chœur au CNSM de Lyon et un master en direction d'orchestre au CNSM de Paris.
Vous avez travaillé au CNSM de Lyon, par exemple, avec le chœur de chambre Spirito de Nicole Corti, je crois.
Oui, exactement. J'ai eu Nicole Corti comme professeur et ensuite elle m'a proposé de rejoindre Spirito en tant que chef assistant, mais également chanteur pour certains projets.
Aujourd'hui, cette double formation de chef de chœur et chef d'orchestre, est-ce que vous avez vraiment complètement migré vers la direction de chœur ou est-ce que vous pourriez, dans les années qui viennent, rebasculer vers de la direction d'orchestre stricto sensu ?
Alors, pour moi, d'avoir fait la double formation, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la complémentarité, c'est-à-dire d'apporter des choses de la direction d'orchestre dans le travail avec un chœur, mais des choses de la direction de chœur dans le travail avec un orchestre. Et aussi, au niveau professionnel et carrière, pouvoir m'ouvrir à plus d'opportunités. Donc là, j'ai eu une magnifique opportunité en tant que chef de chœur de pouvoir prendre la direction du chœur de l'Opéra National du Capitole. Je pense être encore en début de carrière et avoir l'occasion de répondre à d'autres opportunités qui pourraient être peut-être plus orchestrales à l'avenir.
Alors j'imagine que ça a été évidemment une grande joie d'être choisi pour prendre la succession d'Alfonso Cayani à la tête du chœur de l'Opéra National du Capitole. Est-ce que ça a été aussi une surprise pour vous ?
Oui, ça a été une surprise. C'était l'année qui a suivi une période particulière de confinement. J'étais encore à Lyon à cette époque-là. Quand un jour, mon téléphone sonne et je reçois donc un appel de Christophe Gristi, directeur artistique de l'Opéra National, à qui mon nom a été soufflé pour venir. Au début, il s'agissait d'assurer quelques productions de la saison à venir en l'absence d'Alfonso Cayani. Et puis finalement, il s'est fait que je me suis rendu disponible pour l'ensemble de la saison et j'ai pu être accompagné au début par Patrick-Marie Aubert.
Diriger des chœurs de grands opéras, c'était quelque chose qui vous faisait rêver, que vous espériez pouvoir faire rapidement, ou est-ce que ce n'était pas une fin en soi ?
Alors, quand on étudie le chant, la direction d'orchestre et la direction de chœur, il y a un moment où l'opéra devient un but, quelque part, puisque c'est vraiment la réunion de tous ces arts-là, en plus de tous les autres arts magnifiques que sont les décors, la mise en scène, les chorégraphies. Donc, mettre un pied dans un opéra, d'une manière ou d'une autre, c'est forcément un de mes nombreux rêves. Et j'avoue que celui-là est quand même très beau.
comme peut l'être aussi le fait de diriger le Requiem de Mozart lors d'un grand concert aux côtés d'un grand orchestre. Eh bien, nous allons évoquer dans quelques minutes ce Requiem de Mozart et la manière dont vous l'avez préparé avec vos chanteurs du chœur du Capitole. Tout d'abord, pour se mettre dans l'ambiance, nous allons en écouter un extrait, son très connu « Dies Irae ». Le Dies Irae du Requiem de Mozart dans une version du chœur Arcis Bourgogne. Gabriel Bourgoin, vous concernant, est-ce que c'est la première fois que vous préparez un chœur pour chanter le Requiem de Mozart en concert ?
Alors non. C'est une œuvre que j'ai déjà croisée plusieurs fois sur mon chemin. D'abord en tant que chanteur, il y a maintenant une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années. Mais c'est une œuvre que j'ai eu l'occasion de préparer avec différents chœurs, des chœurs amateurs, des chœurs semi-professionnels, mais aussi chœurs professionnels.
Parmi les nombreux Requiem célèbres, vous le placez où dans votre hiérarchie ?
Ça, c'est une question difficile parce que...
Il y en a beaucoup, évidemment.
Il y en a beaucoup, c'est vrai. Disons que le Requiem de Mozart, il y a une quintessence de la perfection d'écriture de Mozart, en même temps qu'un respect profond du contrepoint baroque hérité de Bach. Et en ça, c'est une œuvre qui atteint, malgré son inachèvement, une certaine perfection. Il y en a une autre, si on reste du côté des germaniques, qui est un monument absolument merveilleux qu'on a eu la chance de faire l'année dernière, qui est le Requiem allemand de Brahms. Et après, il y en a d'autres qui sont chers à mon cœur, comme celui de Duruflé, pour aller du côté français, où là, on est sur une tradition encore plus ancienne, qui est le plein chant grégorien, mais avec des couleurs absolument magnifiques et de la douceur française. Requiem de Forêt, qu'on a donné l'année dernière avec le chœur du Capitole à Castelnaudary. Enfin, voilà, il y en a plein qui sont inconnus. Il y en a un que je trouve absolument charmant, c'est le Requiem de Puccini à la mémoire de Verdi. Qui est surprenant parce qu'on se dit Puccini à la mémoire de Verdi, ça va être un truc, mais non, ça dure même pas 10 minutes, c'est très 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 intime. Puis bon, évidemment, pour un chœur d'opéra comme le nôtre, le rêve, c'est celui de Verdi.
Vous parliez de l'inachèvement du Requiem de Mozart, on sait qu'il n'a pas pu le terminer malheureusement. Est-ce qu'on sent bien la différence entre ce qui est de Mozart et ce qui n'est pas de lui ? Malgré tout, vous semblez dire que ça ne pose pas vraiment de problème cet inachèvement par le compositeur lui-même.
Alors ça, c'est justement une chose que j'ai longtemps ressentie en tant que chanteur et en tant que chef. Les parties qui ne sont pas purement de Mozart, de prime abord, on les ressent. On ressent parce que ce qui est formidable dans l'écriture religieuse de Mozart, c'est la manière qu'il a d'écrire pour chacune des voix du chœur. On peut chanter n'importe quelle voix, c'est beau et agréable à chanter. Là où parfois, la mélodie est au soprano, la basse fait la basse, les ténors c'est joli aussi, puis les altos, on met un peu les notes qui restent. Là, la partie d'alto est magnifique dans le Requiem. Donc, les passages qui ne sont pas de Mozart, on peut sentir une aisance un tout petit peu moins forte là-dessus, même si ça reste très bien écrit. Mais j'ai récemment évolué là-dessus, c'est-à-dire, sans doute que Mozart n'aurait pas écrit les choses exactement de la même manière, mais il y a quand même une très belle continuité et c'est à nous en tant qu'interprètes d'assumer, de rendre justice aussi fortement à ce qui n'est pas de Mozart que ce qui est à Mozart. Et ça prend tout son sens lorsqu'on le fait.
Après, l'esprit de Mozart court évidemment dans toute l'œuvre.
Oui.
Même pour les parties qui ne sont pas de lui.
Oui, puis même pour les parties qui ne sont pas de lui, il me semble une grande partie où il y avait au moins certaines lignes et la basse
ouais.
chiffrée, donc le carcan harmonique
était déjà présent.
Oui.
Est-ce que vous savez depuis combien de temps le chœur du Capitole ne l'a pas donné en concert avec l'orchestre du Capitole lui-même? A priori une vingtaine d'années, je crois.
L'orchestre en lui-même ne l'a pas joué depuis une vingtaine d'années, apparemment. Pour ce qui en est du chœur, je crois que le chœur l'avait chanté avec mon prédécesseur Alfonso Cayani il y a quelques années. Mais avec l'orchestre, comme un certain nombre d'œuvres du répertoire, ça fait très longtemps que le chœur n'a pas chanté ça avec l'orchestre.
Donc c'est là aussi, évidemment, un événement. Quelles sont les principales difficultés de cette œuvre pour les choristes et pour le chef ?
Alors, les principales difficultés, comme je le disais, c'est une œuvre qui a un profond respect pour le contrepoint baroque. Et c'est un style d'écriture pour un chœur d'opéra qui s'éloigne de l'écriture habituelle du chœur d'opéra. Donc il y a un vrai travail sur le contrepoint, sur la conduite des lignes. Comme c'est une œuvre de la période classique, et sachant que nous allions le faire avec un grand chef comme Tom Koopman, qui est un chef
baroque.
Très renseigné
oui.
sur le baroque et le début classique, il y avait aussi une question de style. Et la question de style, c'est un grand travail sur la gestion du phrasé. Toujours repartir du texte. Et ce qui est évident avec Mozart, c'est que lui-même est évidemment parti du texte et la musique coule de source par rapport aux accents toniques. Il y a aussi, pour des voix très puissantes, très lyriques, que sont les voix d'un chœur d'opéra, l'obligation de contrôler un petit peu plus le vibrato, par exemple. Et ça demande vraiment une application technique supplémentaire. Une attention de tous les instants, de chaque, même de la nuance. Quand c'est marqué forte dans la partition, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit chanter forte. Donc il y a vraiment eu un travail musical très profond sur le phrasé, sur le timbre, sur le style et sur la gestion du vibrato.
Donc c'est là-dessus que vous avez mis l'accent en tant que
oui.
chef,
oui.
essentiellement. Et donc c'est une œuvre qui nécessite énormément de concentration pour les chanteurs.
Exactement.
Il faut être tout le temps précis
oui.
et tout le temps attentif.
C'est ça.
Donc il y a quatre solistes, évidemment, je vais les citer. Donc il y a Elisabeth Breuer, la soprano, la mezzo-soprano, c'est Lara Morger, le ténor, c'est Patrick Graal, et le baryton, c'est Benjamin Apple. Vous avez travaillé déjà avec Tom Koopman, nous sommes le mardi, là. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec lui, ou est-ce que tout va se faire beaucoup plus près du concert, donc jeudi?
Non, on a déjà commencé à travailler avec lui hier soir. Il a souhaité avoir deux répétitions avec le chœur seulement, et c'est une très bonne chose, puisque lorsqu'on est face à un chef qui a une telle exigence stylistique, il faut le temps pour un chœur de se faire à sa direction, de se faire à son esthétique. Malgré le fait qu'on ait préparé le plus finement possible, il faut laisser le temps au chef d'imprimer sa patte. Et donc nous avons une première répétition hier soir, nous en avons une nouvelle ce soir, et on retrouvera l'orchestre donc demain soir, mercredi. Et à partir de là, ça s'enchaîne très vite, puisque ensuite c'est général et les deux concerts.
Avec les quatre solistes, ça sera au dernier moment, mais en fait, il n'y a que l'offertoire qui se chante chœur et soliste.
Oui, effectivement. Il n'y a pas de mélange entre chœur et soliste, il y a seulement un mouvement, c'est le début de l'offertoire, où au milieu du chœur, il y a un passage d'une quinzaine, vingtaine de mesures, où il y a les quatre solistes, mais ça ne se superpose pas au chœur. C'est vraiment entre deux passages du chœur.
Alors, vous avez déjà travaillé un peu avec Tom Koopman. Est-ce qu'il a déjà donné quelques directives, peut-être inattendues, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez déjà senti la conception qu'il avait de l'œuvre, lui ?
Oui, oui, oui. Pour préparer le travail, j'avais eu la chance de pouvoir me baser sur son enregistrement, qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai pu constater qu'il y a des choses qui restent. Mais évidemment, c'est commun à tous les chefs. Au fil des années, pour une même œuvre, on continue d'y réfléchir et la conception qu'on en a évolue. Donc il y a eu quelques surprises par rapport à ce qu'il avait fait sur l'enregistrement. Il y a des choses qu'il fait différemment aujourd'hui. Mais il est très clair sur ses intentions, sur le phrasé, très clair. Il a bien pris le temps d'installer ces choses-là. Le chœur a très bien répondu à ces demandes-là. Il a évidemment, comme tout chef baroque, une demande assez exigeante envers les voix aiguës sur le fait de retenir le vibrato, sans l'interdire pour autant. Mais
il y a un équilibre difficile à trouver.
Surtout pour des voix qui travaillent techniquement à la puissance et au vibrato lyrique. Là, ça demande vraiment un effort supplémentaire et très particulier que les dames du chœur accomplissent admirablement. Et on sent que c'est une œuvre à laquelle il a profondément réfléchi. dont il est allé chercher les sources, quitte parfois à prendre la liberté d'enlever un accord, par exemple. Je laisserai au public le soin de découvrir
pour
ça.
Pour ceux qui connaissent très bien l'œuvre.
Voilà.
Eh bien, nous allons écouter un second extrait du Requiem de Mozart, le Kyrie, dans une version cette fois-ci du Monteverdi Choir, dirigé par John Eliot Gardiner. Le Kyrie du Requiem de Mozart dans une version du Monteverdi Choir dirigée par John Eliot Gardiner. Merci Gabriel Bourgoin, nous allons maintenant quitter Mozart et son Requiem pour la mandoline et le concerto que lui a consacré Johann Nepomuk Hummel, qui fut d'ailleurs l'élève de Mozart. Pour en parler, je reçois celui qui va jouer cette œuvre aux côtés de l'Orchestre National du Capitole jeudi et vendredi prochain à la Halle au Grain, le mandoliniste Julien Martineau qui est arrivé entre-temps dans le grand studio de Radio Présence. Bonjour Julien, il faut qu'on précise d'emblée que ce concerto pour mandoline de Hummel est une des pièces qui figure sur le CD que vous avez fait paraître il y a quelques semaines sous le label Naïve, enregistré avec des musiciens de l'Orchestre du Capitole sous la direction de Wilson NG, Wilson Ni, comme je crois qu'il faut dire, CD auquel vous avez donné le titre Au Soleil Mio.
Bonjour Eric, oui exactement, Au Soleil Mio, puisque c'est une des chansons qui figure aussi sur le disque, puisque c'est un disque de concerto avec du Vivaldi, concerto pour deux mandolines, Calacci, le grand compositeur de la mandoline, et le concerto de Hummel. Et puis on a intercalé dans le programme du disque des chansons avec le grand baryton Florian Sempet, dont Au Soleil Mio, et puis également l'intégrale des œuvres pour mandoline et guitare de Paganini. Alors je dis ça, l'intégrale ne fait pas une heure de musique, mais environ 10 minutes de musique. On a enregistré cette intégrale avec Philippe Mouratoglou en constituant comme un programme de concert, et l'album s'appelle Au Soleil Mio, disque du soleil.
Le fil conducteur, c'est ça, c'est la musique du soleil, ou c'est quand même beaucoup l'Italie, il me semble.
Alors, il y a beaucoup, de toute façon, d'inspiration italienne avec la mandoline, puisqu'on sait que c'est un instrument qui est présent partout dans le monde, mais dont le berceau est quand même l'Italie. L'idée, c'était d'avoir une sorte de progression musicale qui commence par Vivaldi, qui nous amène du baroque en passant par le classique, avec Paganini qui est à la limite entre classique, pré-romantique, Hummel qui est le parangon du classique, et des œuvres qui sont plus romantiques pour le coup, avec notamment les célèbres mélodies napolitaines qu'a fait connaître Pavarotti, et puis le concerto de Calacci.
Alors concernant Calacci, c'est un peu votre chouchou quand même depuis quelques années, vous disiez vous-même que c'est le Paganini de la mandoline.
Oui, Calacci, pour moi, c'est le personnage central de l'histoire de la mandoline. D'ailleurs, je dis souvent que je n'aurais sans doute pas fait de carrière, en tout cas professionnelle, si Calacci n'avait pas existé, parce que pour moi, il est à l'origine, en fait, de tout un pan du répertoire, j'allais dire héroïque. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une virtuosité vraiment très difficile à maîtriser, mais comme pour tous les grands instruments, comme pour le violon, comme pour le piano, etc. Et cette virtuosité à la mandoline, elle est arrivée finalement avec lui. Elle est arrivée tardivement. Je ne dis pas que jouer Vivaldi, Hummel, les pièces de Beethoven, ce soit simple. C'est pas ça. C'est qu'avec Calacci, on a touché quelque chose de beaucoup plus transcendant. De la même façon qu'il y a un avant et un après Paganini, quand il a composé ses caprices, et que les violonistes ont vu les partitions, ils se sont dit « Oula, là, c'est pas jouable ». Et Calacci, c'était un peu ça. Et puis finalement, c'était jouable. Et puis surtout, il a permis de donner le démarrage d'une nouvelle littérature.
Pour découvrir un premier extrait du CD au Sole Mio, avant de parler du concerto pour mandoline de Hummel, je propose qu'on écoute d'abord votre enregistrement du concerto pour mandoline numéro 1 de Raffaele Calacci et son premier mouvement Marziale. Le premier mouvement martial est du concerto pour mandoline numéro 1 de Raffaele Calacci, interprété par Julien Martino, accompagné par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Wilson NG. Un extrait du CD O Sole Mio, paru récemment sous le label Naïve. On en vient au concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel, qui est aussi sur ce CD, que vous allez donc jouer jeudi et vendredi à la Halle au Grain, encore avec l'Orchestre du Capitole, mais sous la direction de Ton Koopman. Hummel, élève de Mozart, donc, mais aussi de Haydn et Salieri, est-ce que son concerto est une pièce de référence pour les mandolinistes ?
Oui, ça fait partie des grands concertos pour mandoline, au même titre que le concerto de Hummel pour la trompette, qui est le concerto, pour le coup, vraiment de référence pour la trompette, qui a, comme la mandoline, un répertoire restreint mais de grande qualité. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Hummel a composé ce concerto en 1799, c'est à peu près au même moment que les pièces qu'a composées Beethoven pour mandoline et piano. Donc c'est une œuvre de jeunesse, on va dire, mais il aimait tellement ce concerto qu'il en a ensuite fait une retranscription, une révision pour piano, parce qu'il n'était pas assez joué à son goût, en 1828, c'est-à-dire que tout à la fin de sa carrière,
30 ans après,
voilà, c'est ça, cette pièce-là était pour lui l'une de ses grandes réussites. Et effectivement, ce concerto pour mandoline, ce n'est pas juste de la musique au kilomètre, c'est une musique pleine d'esprit, c'est assez sublime.
Qu'il avait dédié à un grand mandoliniste de l'époque, donc de la fin du 18e, Bartol Bortolozzi.
Oui, c'est ça. Bartolomeo Bortolozzi, c'était le mandoliniste de Vienne à cette époque. Et on peut vraiment le remercier parce qu'il est à l'origine de beaucoup de compositions. Alors, de Hummel, déjà concerto, mais aussi une sonate pour mandoline et piano. Mais aussi des œuvres de Hoffmann, de Giulini. Enfin, tout un répertoire vraiment viennois qui est d'une grande richesse. Et ce Bortolozzi, en fait, alimente un peu cette croyance que j'ai dans le fait que l'histoire se fait au quotidien. C'est-à-dire que, voilà, c'est des rencontres. Le fait que Beethoven écrit pour mandoline, aujourd'hui, on voit ça comme de la grande histoire, mais c'est lié au fait qu'il ait rencontré une jeune fille, un moment de bonne famille, qui voulait prendre des cours de musique, aller jouer un peu de mandoline. Finalement, il lui a dit, on va faire des cours de musique avec la mandoline. Il suffit que Bortolozzi ait pris une bière un soir avec Hummel, lui a dit, voilà, moi je joue de la mandoline, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu me réécrirais pas une œuvre ? Et c'est comme ça aujourd'hui qu'en fait on a un très beau concerto.
Trois mouvements, Allegro, Moderato et Gracioso pour le premier, Andante con variazioni pour le deuxième et puis donc un rondo pour le troisième mouvement. Est-ce que c'est une œuvre difficile à exécuter ?
C'est une œuvre alors qui doit avoir l'air d'être facile, comme toutes les pièces, même de Mozart, dans un style, on va dire, un peu galant, avec des pointes, évidemment, d'émotion et de tragique lorsqu'il y a des variations mineures, parce qu'il y a beaucoup de variations dans ce concerto. Mais oui, c'est un concerto qui est assez délicat, parce que c'est de la dentelle. Ça va très, très vite. Beaucoup, beaucoup de notes. Il faut que ça chante énormément. Voilà. Un peu comme un concerto pour piano de Mozart, finalement.
Est-ce qu'on y sent encore l'influence de son maître Mozart, mais peut-être aussi de l'opéra italien, déjà Rossini un peu ?
C'est ça, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on sent des moments rossiniens sur les cadences, tout d'un coup d'euphorie, et puis bien sûr on a cette élégance typique de Mozart, et l'élégance viennoise.
Je suppose que vous l'avez déjà joué en concert, pas à Toulouse en tout cas.
Je l'ai déjà joué en concert, mais il y a très longtemps. Je l'ai joué notamment la dernière fois, c'était à Colmar, voilà, au Festival de Colmar de printemps.
Et le jouer sous la direction d'un grand chef comme Ton Koopman, est-ce que c'est vraiment un grand honneur pour un musicien ?
Ah bah oui, Ton Koopman fait partie des grandes légendes de la musique classique et puis de la musique baroque, où c'est quand même l'un des plus grands spécialistes de Bach. Puis c'était un élève aussi de Gustave Leonhardt. Enfin, là, en fait, on touche à toute l'histoire de la musique.
Et de la Renaissance du baroque, hein, en Europe.
Exactement, c'est ça. C'est toute l'histoire de l'interprétation, notamment au cours du XXe siècle, qui a été très importante et quelque part concentrée aujourd'hui dans Ton Koopman.
On va écouter ce concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel, exécuté par vos bons soins et ceux des musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Voici un second extrait de votre CD « O Sole Mio ». Il s'agit du troisième mouvement, le rondo. Thank you. le troisième mouvement rondo du concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel, interprété par Julien Martineau et les musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Nouvel extrait de votre CD Au Sole Mio pour cette œuvre que vous allez donc jouer jeudi et vendredi à la Lograin sous la direction de Tom Koopman. Pour finir, un petit mot, si vous voulez bien, concernant le Festival de Toulouse dont la deuxième édition a eu lieu en juillet dernier. Vous êtes le fondateur et directeur artistique de la manifestation. Quel bilan vous pouvez faire, là, encore une fois, en quelques mots?
Écoutez, on a eu un très beau bilan cette année, que ce soit d'un point de vue artistique, ce qui quand même est le plus important, mais aussi en termes de fréquentation, puisque un festival n'a de sens que si le public est là. On était à plus de 80% de taux de remplissage, donc c'était au-delà même de nos prévisions. Des concerts dont on se souviendra longtemps, notamment Philippe Catherine avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui a fait un concert extraordinaire. Les gens qui ne connaissaient pas vraiment Philippe Catherine, qui avaient plutôt une image superficielle de cet artiste un peu hors du commun, sont ressortis de là en se disant « Ah oui, c'est incroyable ». Puis on a eu Roberto Alagna aussi pour son grand retour à Toulouse, ce qui n'est pas rien. Puis au Capitole, hein, un peu chez lui. Voilà, donc on a eu énormément de grands moments. Et donc voilà, on repart pour une troisième édition et on est très content parce qu'évidemment, les musiques entre guillemets savantes sont toujours les musiques les plus délicates à défendre. Voilà, et le festival, lui, en plus, vient en prolongement de festivals incroyables qu'il y a toute la saison, qui sont d'une certaine manière plus pointus. Et nous, on essaye vraiment de mettre ces musiques un peu plus difficiles d'accès que la pop, accessibles au plus grand nombre, avec une programmation un tout petit peu sexy, un peu facile. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le quatuor Modigliani qui vient va jouer La jeune fille et la mort et ne va pas jouer un quatuor, par exemple, beaucoup plus complexe, qu'on peut apprécier dans un second temps.
On va terminer cette émission en musique. Je propose qu'on écoute un extrait de la troisième œuvre au programme des concerts que donne l'Orchestre du Capitole sous la direction de Tom Koopman, jeudi et vendredi à la Lograin. Outre le Requiem de Mozart et le concerto pour mandoline de Hummel, il y a aussi la suite pour orchestre numéro 3 BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, dont voici le très célèbre Aria dans une version dirigée par Tom Koopman. Le fameux aria de la suite pour orchestre numéro 3 BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, dans une version dirigée par Tom Koopman. C'est une des trois œuvres au programme des concerts que donne l'Orchestre National du Capitole sous la direction du même Tom Koopman. C'est jeudi 26 et vendredi 27 octobre à 20h à la Halle au Grain. Au menu de ces deux soirées, il y a aussi le Requiem de Mozart avec le chœur de l'Opéra National du Capitole et le concerto pour mandoline de Hummel avec Julien Martineau. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle la parution récente du CD Au Sole Mio, enregistré par Julien Martineau avec les musiciens de l'Orchestre du Capitole sous la direction de Wilson NG. Ce disque est paru sous le label Naïve et vous pouvez le trouver ou le commander chez tous les bons disquaires ou en ligne sur le site www.naiverecords.com. Un autre CD est paru la semaine dernière, l'enregistrement de Daphnis et Alcimadur, l'opéra occitan de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, par l'Orchestre des Passions de Montauban et le Chœur Les Éléments, sous le label Ligia, un disque que l'on peut se procurer sur le site www.les-passions.fr. Merci à mes trois invités, Serge Chosy, Gabriel Bourgoin et Julien Martineau, d'avoir participé très activement à ce 245e numéro de Mélomanie. Merci également à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre fidélité à notre écoute. Excellente semaine musicale à tous.